Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
La 12e journée nationale des 10 du Rhône a lieu samedi, le 13 octobre à Lyon. Elle vise à apporter à la société une meilleure connaissance des troubles 10 et des situations de handicap qui en découlent afin de permettre un accompagnement approprié pour chaque personne concernée. Dans le Rhône, c'est l'association Distinguons-nous qui organise cet événement et j'en reçois la coprésidente Nicole Philibert. Bonjour.
Bonjour.
Alors rappelez-nous déjà un petit peu ce que sont les 10.
Alors les 10, c'est un mot qui regroupe plusieurs dysfonctionnements très spécifiques du cerveau. Puisque dans les 10, on trouve la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, des conséquences qui sont la dysorthographie, la dysgraphie, et on associe le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Est-ce qu'on sait d'où ça vient, les 10, aujourd'hui ?
C'est pas une maladie, c'est le cerveau qui fonctionne différemment pour traiter certains types d'informations, telles que la lecture, l'écriture, le geste, le calcul aussi, parce que j'avais oublié la dyscalculie, et il n'automatise pas certaines choses. Quand on apprend, notre cerveau a tendance à automatiser les choses pour qu'on puisse aller plus vite, gagner du temps et moins se fatiguer. Quand on a un trouble 10, certaines activités qui sont des activités de base, notre cerveau n'arrive pas à les automatiser. Donc il va plus se fatiguer. Donc on a l'impression que la personne pourrait mieux faire alors qu'elle ne peut pas mieux faire. Bien entendu, il y a la rééducation qui va permettre d'augmenter les capacités, mais toute rééducation a des limites plus ou moins grandes.
Les troubles 10 concernent plus de 10% de la population aujourd'hui. Ça représente 770 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes, 170 000 dans le Rhône et à Lyon. Pourtant, on a l'impression qu'on connaît encore assez peu les troubles 10. On sait vaguement ce que c'est. Comment ça se fait que le grand public soit aussi peu sensibilisé à la question ?
Pour une raison très simple, c'est que la technologie sur l'exploration du cerveau a fait des grands progrès au cours des dernières années. Avant, le cerveau, on ne le connaissait pas. Maintenant, il y a l'IRM fonctionnel qui permet de voir le cerveau en activité. Il y a des techniques de plus en plus fines pour examiner le travail du cerveau. Et c'est là où on s'est aperçu que le trouble 10 venait vraiment d'un dysfonctionnement d'une zone du cerveau. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Alors que l'éducation nationale avait été créée au départ pour éduquer des enfants éducables qui pouvaient suivre. Donc tous les enfants qui n'arrivaient pas à suivre étaient plus ou moins rejetés de l'éducation nationale. C'est la loi de 2005 qui a permis à l'éducation nationale d'accueillir tous les enfants en situation de handicap. Et beaucoup de 10 se retrouvent en situation de handicap à l'école. Donc il y a deux contextes, les progrès scientifiques et l'évolution de la loi.
Et qu'est-ce qui explique qu'on connaisse si mal les 10 quand on n'y est pas directement confronté ?
Parce qu'on a toujours l'impression que le cerveau de son voisin doit fonctionner comme notre cerveau fonctionne. Et on a du mal à s'imaginer que faire un geste qui peut paraître très simple pour nous peut être en réalité très compliqué pour quelqu'un d'autre. C'est notre cerveau qui n'arrive pas à imaginer ça.
Finalement, on a tous des problèmes de cerveau.
Exactement. Tous les cerveaux sont différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a autant d'intolérance parce qu'on ne s'imagine pas que l'autre peut être différent.
Vous étiez venu à ce micro en 2017 quand les troubles 10 avaient été nommés grande cause régionale. Aujourd'hui, ces troubles ne sont plus cause régionale. C'est la thématique sport et handicap. Qu'est-ce qui a changé en un an ?
On a eu une grosse évolution. Pourquoi ? Parce qu'à l'occasion de la grande cause régionale, Sandrine Chex, qui est la conseillère spéciale handicap de la région, a décidé de faire un livre blanc sur les troubles 10. Ça a été le premier livre blanc. Il a permis de réunir tous les acteurs qui intervenaient autour des troubles 10, aussi bien les parents, bien entendu, que des personnes 10 elles-mêmes quand elles sont adultes, que les centres de référence, que les chercheurs, que l'éducation nationale, que Pôle emploi, que les missions locales. Toutes les personnes sont venues et ont commencé à discuter ensemble. Au début, ça n'a pas été très simple parce qu'il y a eu beaucoup de quiproquos, de mauvaises connaissances, et au fil du temps, ça a donné un très très bon ouvrage qui est téléchargeable sur le site de la région. Et dans cet ouvrage, il y avait une idée très forte, c'était de faire un projet régional qui permettrait aux 10 d'être mieux connus du grand public, de leur père aussi à l'école, parce que les 10 sont souvent sujets à moqueries de la part d'autres élèves qui ne comprennent pas que leur petit copain a des difficultés, puis que finalement, s'il s'appliquait un peu plus, ça ira peut-être mieux. Donc ce projet est en train de se monter depuis le mois de janvier. Il y a plus de 80 experts qui se sont réunis dans tous les domaines pour travailler ensemble à nouveau. Il y a eu un travail absolument extraordinaire de gens motivés pour partager, pour avancer ensemble. C'est la première fois en France et ça va être présenté pour la journée des 10.
Pour vous, c'est aussi important qu'il y ait du monde qui se mobilise sur cette journée des 10 pour montrer l'intérêt et le bien fondé presque de cette démarche, de ce livre blanc et de ce projet régional. Comment va-t-il se mettre en place, ce projet régional ?
On compte beaucoup sur les différents acteurs, on compte sur des partenaires aussi. S'ils sont intéressés, ils pourront nous contacter, venir nous voir à la journée des 10. Et on compte énormément sur le grand public pour qu'ils viennent poser des questions sur ce projet, prendre connaissance de ce qu'il va en être, afin que tout le monde puisse dire « Ah oui, les 10, c'est pas ce que j'imaginais. »
Quelle forme va-t-il prendre ce projet ?
Alors, il va y avoir un lieu totem qui sera à Lyon, effectivement, et après, il va y avoir un rayonnement régional qui est en train d'être étudié, parce que chaque département de la région a des besoins spécifiques qui sont différents en fonction de la zone géographique, déjà, s'il y a un grand centre ou s'il n'y en a pas, en fonction si c'est un territoire plutôt rural ou urbain. Il y a énormément d'éléments à prendre en considération. On va s'appuyer sur l'existant, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, ça serait ridicule. Mais il y a énormément de choses extraordinaires qui existent et les gens, malheureusement, se connaissent peu, se connaissent mal, et sont quelquefois ignorés du grand public. Donc on voudrait faire du lien, par le biais de ce projet, entre tous les acteurs.
Vous soyez concernés ou pas par la problématique, vous êtes bien sûr les bienvenus sur cette journée nationale des 10 pour en parler. C'est samedi, on le rappelle, et c'est donc à l'hôtel de région à Lyon. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et découvrir ? Pourquoi est-ce que c'est pour le grand public et pas simplement pour les personnes concernées ?
Parce que le grand public connaît 10% de la population. Ça veut dire que le grand public connaît forcément quelqu'un qui est concerné. Et que le regard qui porte sur cette personne peut être un regard ouvert ou plus ou moins fermé. Donc l'après-midi, dans une conférence, on va avoir le professeur Yves Rossetti de l'INSERM avec Caroline Bouchot, qui est une enseignante, qui vont nous parler justement de l'importance du regard sur l'autre et comment notre cerveau a tendance à se faire des idées préconçues sur les voisins, idées qui ne sont pas toujours favorables pour une bonne relation. Le matin, on va avoir la CNSA, c'est la Caisse Nationale de Solidarité et l'Autonomie, avec l'ARS et avec l'Éducation Nationale, qui va faire une conférence sur le parcours de santé et le parcours scolaire. Est-ce que les 10 sont systématiquement en situation de handicap ou pas ? Quelle est la barrière ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme dans l'autre ? Quels sont les aménagements qu'on peut avoir si on est en situation de handicap ou si on n'est pas en situation de handicap ? Il va y avoir une grande première. Nous avons fait un travail de lobbying auprès des députés du Rhône. Nous les avons tous invités à cette journée. Il y en a 8 sur 14 qui nous ont dit qu'ils seraient présents. C'est absolument extraordinaire.
Plus de la moitié, c'est à souligner. Ouais.
Et on les remercie. Et on compte vraiment sur eux pour qu'ils relayent les demandes des parents auprès de l'Assemblée nationale. Parce que c'est vrai qu'il y a des textes de loi. Mais ceci pourrait être amélioré pour justement éviter cette souffrance et cette exclusion des personnes 10, que ce soit à l'école encore, bien que l'éducation nationale ait fait des gros progrès, mais il y a encore une marge de manœuvre qui peut exister, puis aussi dans le monde du travail. On est NAIT 10 et on est EST 10 toute la vie. Seulement l'expression des troubles va être différente en fonction de son environnement. Et il est vrai que dans le monde du travail, le trouble 10 ne va pas s'exprimer de la même façon qu'à l'école. Seulement, il peut pénaliser la personne qui peut être moins efficiente que ce qu'on peut attendre d'elle. Alors que si on connaît le trouble et si on connaît surtout le moyen de remédier, de mettre des compensations intelligentes pour l'aider à avancer, elle va retrouver toutes ses capacités, elle va pouvoir déployer ses talents.
Aujourd'hui, finalement, le trouble 10 est moins mal pris en compte à l'école que dans le monde du travail ?
Oui, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est encore de l'ignorance. Le monde du travail ne connaît pas les troubles 10. Autant il s'est penché sur le handicap physique ou sur le handicap sensoriel, autant le handicap cognitif est quelque chose qui n'est pas très reconnu. Et puis, dans le monde du travail, on a des personnes qui sont capables de faire des choses. Mais pourquoi, à un moment donné, elles y arrivent moins bien ? On ne sait pas se poser encore la bonne question. Donc on espère, par le biais des journées des 10 que nous organisons, enfin il y a celle de Lyon, mais il y a d'autres journées dans toute la région et dans toute la France. On espère que les entreprises vont se pencher de plus en plus et vont pouvoir aider leurs salariés à contourner, à compenser leurs difficultés au niveau du travail. Ça serait vraiment une grande avancée.
C'est une des questions qui va être abordée donc, sur cette journée des 10 samedi. En quelques mots, est-ce qu'on peut déjà essayer d'expliquer, de comprendre dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui les 10, les personnes 10 sont reconnues comme ayant un handicap ? Est-ce que c'est systématiquement le cas ou pas ?
Non. Il faut monter un dossier auprès des maisons départementales de la personne handicapée. C'est quelque chose qui est lourd, qui est astreignant, qui est compliqué. On peut avoir une réponse négative si le dossier est mal monté. On peut avoir une réponse négative aussi parce que quand on est 10, on ne fait pas forcément partie du champ du handicap. C'est l'expression du trouble en fonction de l'environnement qui va faire qu'on va rentrer dans le champ du handicap ou pas. Donc plus les entreprises ou plus le monde en général va mettre des aménagements, des choses très simples à faire, comme des logiciels qui vont permettre de mieux lire à l'écran ou sur papier, choisir une autre police sur le papier par exemple, ça va aider la personne. Elle ne sera peut-être pas obligée de passer par la reconnaissance de situation de handicap. Donc plus on va rendre le monde accessible, plus ça sera simple. C'est comme pour la personne en fauteuil roulant. Vous lui donnez un fauteuil roulant, mais si vous laissez les escaliers, elle ne pourra jamais avancer. Donc il faut aussi rendre l'entreprise et le monde en général accessible aux 10 pour qu'il y ait moins de reconnaissance de handicap.
Quel est le parcours de santé aujourd'hui des porteurs des troubles de 10 ? Comment ça se passe ?
La première chose à faire, c'est de repérer qu'il y a quelque chose dans un domaine bien spécifique qui est un petit peu différent de ce qu'on peut attendre de la personne dans la même tranche d'âge. Une fois qu'on a repéré ça, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste, qui théoriquement doit être apte à demander certains bilans, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, etc. Alors je dis théoriquement parce que malheureusement, dans la formation initiale des médecins, il n'y a rien sur le trouble 10. Et c'est un grand dommage. C'est pour ça aussi qu'on invite les députés pour faire remonter ça à l'Assemblée nationale, parce que ça devrait faire partie de la formation initiale, que ce soit des médecins, que ce soit de tous les professionnels de santé, que ce soit dans les crèches, dans tout le monde de la petite enfance, dans l'éducation nationale. Tout ce qui a trait au trouble 10 ne fait pas partie des formations initiales. Donc on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie. Et ça cause beaucoup de souffrance.
Quel est le message que vous allez porter un petit peu à ces députés finalement ? Quel est ce que vont devoir apporter ? Qu'est-ce que vous aimeriez, eux, qu'ils apportent à l'Assemblée nationale ?
Alors on va demander aux familles de venir avec une question en leur demandant qu'est-ce que vous aimeriez que les députés disent pour vous à l'Assemblée nationale. Puis il y a aussi une autre chose, la FF10 a fait une motion où elle a recentré tous les besoins les plus importants des personnes ayant un trouble 10 et on voudrait que les députés portent aussi cette motion à l'Assemblée nationale.
Quels sont-ils, ces besoins, en quelques mots ?
Déjà, un meilleur dépistage, un meilleur repérage des signes, un meilleur dépistage, puis une meilleure prise en compte, pas forcément en charge, parce que quand on dit prise en charge, ça veut dire que la personne, elle est un peu portée, alors qu'on veut qu'elle soit aussi acteur de sa vie. Mais une meilleure prise en compte, un meilleur accompagnement. Il n'est pas normal à l'heure actuelle que certains soins tels que l'ergothérapie, la psychomotricité ne soient pas remboursés. Et donc là, ça provoque un hiatus entre les parents qui peuvent payer ces soins et les parents qui ne le peuvent pas. Depuis la toute petite enfance, on a des enfants qui sont écartés parce que leurs parents n'ont pas les revenus suffisants pour assurer ces soins. Et ça va coûter très cher parce qu'une séance ou deux séances par semaine, c'est facilement 600-700 € par mois qui sortent. Donc tout de suite, on a cette différence et c'est absolument pas normal. Notre devise, c'est quand même liberté, égalité et fraternité.
Au passage. Quelles sont peut-être les autres nouveautés de cette journée nationale des 10 qui a lieu samedi, on le rappelle ?
Il va y avoir un village extérieur avec des activités, des jeux, etc. pour un peu tout le monde. Et puis surtout, on a une chanson qui a été créée par une maman qui est mère d'un enfant 10 et qui va être interprétée par Clémentine, qui est 10, qui a 14 ans, qui va faire l'ouverture de la journée. Cette chanson s'appelle Distinction. Le CD sera en vente et les bénéfices vont être reversés à l'association pour qu'on puisse continuer à organiser ces journées. Donc on remercie les auteurs, interprètes et compositeurs.
Il y a eu beaucoup de monde l'an dernier à la Journée nationale des 10. Qu'est-ce qui fait le succès de ces journées ?
Eh bien parce que tout le monde a besoin de renseignements. Le parcours est très compliqué. On dit, comme beaucoup de situations de handicap, on dit que c'est le parcours du combattant, mais c'est un véritable parcours du combattant. entre la rééducation, entre l'école, entre le périscolaire, entre le parascolaire qui ne connaît pas les troubles, entre le monde du travail. On est toujours en train de questionner, de s'informer, quel que soit l'âge, de l'enfance à l'âge adulte. Il y a toujours un moment où on se pose des questions. Donc c'est très très compliqué, il n'y a rien de banalisé, il n'y a rien de repérable facilement. Même s'il y a des progrès, c'est encore insuffisant. Donc on pense qu'on aura encore beaucoup de monde cette année, parce qu'il y a toujours des enfants qui sont diagnostiqués, il y a des enfants pour lesquels on se pose des questions. Et puis non seulement des enfants, il y a plein d'adultes maintenant qui se posent aussi des questions sur leur parcours, en disant « mais est-ce que moi, je ne suis pas concernée aussi ?»
Et pourtant, c'est une journée qui se veut très grand public, c'est vraiment une entrée gratuite, libre à tous.
Oui, oui, parce qu'il est indispensable que tout le monde s'informe. C'est pas logique, dans notre société à l'heure actuelle, que seules les personnes qui sont concernées par un problème soient obligées de venir pour s'informer. Si tout le monde accepte de venir pour en apprendre un petit peu, on demande pas, les gens ne vont pas ressortir en tant que professionnels, mais en apprendre un petit peu sur la situation des 10, sur les problèmes qui sont liés à ça, on aura à faire des avancées parce que le regard va s'ouvrir de plus en plus. C'est ce qu'on a besoin.
Et ils pourront du coup notamment aussi découvrir ce projet régional qui est important pour vous. Vous en parliez tout à l'heure hors antenne. Vous attendez beaucoup de ce projet régional?
Oui. Oui, parce que les gens ne savent pas où aller, ils n'ont pas de source. Ils vont taper à droite, à gauche, à une porte, à une autre porte, sans avoir de référence. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pour ça, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de questions. Et ce sont les mêmes questions qui reviennent régulièrement. Parce que toutes les personnes qui rentrent dans le monde des 10 se posent à peu près les mêmes questions. Donc pourquoi les obliger toujours à refaire ce parcours, alors que si on pouvait tracer des repères, ça serait beaucoup plus simple? Effectivement, il y a un travail qui va être fait au niveau des professionnels par l'ARS. Mais ce travail va être fait au niveau des professionnels. Le temps que ça retombe en cascade, on va encore perdre des années. Donc on va engranger des années de souffrance pour des enfants. Alors que là, c'est un projet qui vient de la base des usagers, qui a été rejoint par l'INSERM. L'INSERM, on a quand même un des plus grands centres de recherche sur le cerveau à Lyon, qui a été rejoint par l'Éducation nationale, qui a été rejoint par les chambres consulaires, qui a été rejoint par énormément de monde. Et tout le monde est d'accord pour travailler ensemble. C'est la première fois en France. Donc ça serait vraiment dommage de se priver de ça. Et il y aura des retombées qui vont être beaucoup plus larges que les troubles 10. Parce qu'on peut être 10 et être épileptique, on peut être 10 avec un trouble de la sphère autistique, on peut être 10 avec une insuffisance intellectuelle, on peut être 10 et nouvelle arrivée en France. Donc ça concerne beaucoup de monde. Quelqu'un qui arrive en France, qui n'arrive pas à s'approprier la langue française, on va dire « ah oui, c'est parce qu'il est étranger, il faut qu'il fasse un effort ». Et peut-être qu'il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il est étranger avec un trouble 10 et que dans son pays, il ne le savait pas. Le trouble 10 va concerner vraiment tout le monde, tout le monde. C'est pour ça qu'il est important. L'année passée, on était presque 3000. Cette année, il faut qu'on dépasse. Nous, on voudrait doubler, ça serait bien.
Donc, vous êtes tous attendus là-bas samedi. On en parlait tout à l'heure de l'INSERM. C'est vrai qu'à Lyon, on a un centre important de recherche sur le cerveau. Où en sont aujourd'hui les recherches scientifiques sur les troubles 10?
Alors, il n'y a pas de recherche très spécifique sur le trouble 10. Mais il y a tout un tas de recherches sur le cerveau qui peuvent être utiles à toutes les personnes 10. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces recherches soient transférables sur les 10. Ça va nous faire gagner du temps. Et comme l'INSERM est vraiment s'appliquer dans ce projet, ça serait fantastique, parce que pour la première fois, au lieu que le patient aille à l'hôpital pour faire des bilans, etc., pour faciliter la recherche, ça pourrait être les chercheurs qui viendraient à la rencontre des patients, et ça va provoquer un autre type de conversation, de communication. Les chercheurs pourront plus facilement faire part de leurs recherches, l'éducation nationale et la santé pourront plus facilement s'approprier ces recherches. Donc on espère que cet effet de boule de neige va être très très important pour améliorer la situation des 10, mais pas que.
Donc voilà, on le répète, vous êtes tous bien sûr attendus samedi. Merci Nicole Philibert, on rappelle que vous êtes la coprésidente de l'association Distinguons-nous.
On n'est pas association de famille. Distinguons-nous, c'est une association qui regroupe des bénévoles issus des associations de famille. Et les parents qui ont des problèmes ou les adultes 10 qui ont des problèmes personnels vont vers les associations de famille pour pouvoir avoir des réponses à leurs problèmes. Nous, notre but, c'est vraiment de fédérer autour d'un événement toutes les personnes de bonne volonté qui veulent en apprendre plus sur les 10. On s'est plus lancé comme défi d'organiser un événement pour faire connaître les troubles 10, pour aider tout le monde. Mais On connaît très bien les situations parce qu'on est tous issus du monde des familles. Et on est tous concernés.
Merci beaucoup et on rappelle donc que cet événement, c'est samedi, la 12e journée nationale des 10 du Rhône, de 9h à 17h à l'hôtel de région à Lyon. C'est gratuit et ouvert à tous.
Merci.